Bonjour à tous, merci d'être venus. Ramadan Kerim pour le tout, papa. Une petite remarque pour commencer, c'est que normalement la personne qui devait parler, parler de la Sira, a eu un contretemps depuis, c'est quand je t'ai dit ça, c'était hier je crois.
Ouais,
oui. Hier ou avant-hier. Il a une personne, un proche qui a été hospitalisé à Marseille, il a dû y aller hier. Et du coup, cette personne n'est pas là. Et le problème, c'est qu'on avait compté sur lui pour un peu parler de la Sira. C'est un étudiant de PHE qui a beaucoup travaillé sur les textes de la Sira, notamment sur les transmissions, c'est-à-dire les sources. Et du coup, on s'est retrouvé un peu, en dernière minute à devoir faire quelque chose. Donc, ça va. J'avoue que pour ma part à moi, c'est beaucoup d'improvisation, malheureusement. Et donc voilà, je tenais juste à vous dire ça parce que voilà, normalement on aurait pu avoir quelque chose de plus. Ce sera pour une prochaine. Hein. C'est quelqu'un qui était très motivé, qui était là d'ailleurs le 21 avril, mais qui malheureusement, après c'est un cas de force majeure. Donc voilà, donc on va essayer de parler nous de la Sira. Mm-hmm. On va parler chacun. Je sais pas si ce qu'on va dire sera. J'espère que ça sera complémentaire, mais ce sera pas la même chose. Ma crainte, c'est que ce soit la même chose, mais je pense pas trop. Tu voulais peut-être.
Donc merci déjà à tout le monde d'être venu aujourd'hui. On est très content de vous accueillir. Donc là, on est en comité plus restreint que le 21 avril. Hein, donc on est dans le cadre de nos cercles de discussion mensuels. Donc on essaye tous les mois de se réunir sur des questions assez variées. Donc depuis septembre dernier, on fait ces cercles de discussion. Donc j'ai distribué pour celles et ceux qui n'avaient pas eu la description de l'association qu'on avait distribué au 21 avril. Comme ça, ça évite de revenir sur qu'est-ce que l'association. Je vais commencer dès maintenant. Une petite présentation. Donc déjà le titre du cercle de discussion, c'est la figure du prophète à travers la Sira, une biographie impossible. Salam, ça va ? Donc la figure du prophète à travers la Sira, une biographie impossible. Alors cette expression, la biographie impossible, c'est une expression qui vient de Jacqueline Chabie, qui ensuite a été reprise par Françoise Michaud, qui sont toutes les deux donc, des universitaires. Jacqueline Chabie est spécialiste d'anthropologie, d'histoire donc du monde arabe, du 7e siècle en particulier, et arabisante. Et Françoise Michaud est professeure émérite à Paris 1, professeure d'histoire. Donc c'est la question de la biographie impossible. Donc la Sira, je fais un bref rappel quand même historique un petit peu, comment cette biographie du prophète s'est constituée. Donc la Sira, donc ça signifie la vie du prophète. Cette biographie standard, on la retrouve dans toute la tradition musulmane, et elle nous vient d'un auteur irakien, Ibn Hisham, qui est mort soit en 828, soit en 833, il y a des doutes sur la date de sa mort. Et Ibn Hisham a remanié une première version de cette biographie. Une première version qui ne nous est pas parvenue, c'est celle d'Ibn Ishaq, donc un autre auteur qui est mort en 767. Donc on a un travail à partir d'une première version, on a constitué une version officielle de la vie du prophète. Et c'est notamment le calife Abbasside Al-Mansour, qui a régné de 754 à 775, qui a demandé à Ibn Hisham de rédiger donc, un ouvrage sur la vie du prophète. Et c'est à ce moment-là donc Ibn Hisham invente un nouveau genre littéraire, la Sirat al-Nabi, c'est-à-dire la vie du prophète. Donc on est dans le cadre vraiment d'un récit de vie, et la vie dans la tradition, on va dire plutôt occidentale, hein, ça fait référence à un genre littéraire particulier, c'est la vie, les vies de saints, et du registre de la géographie. La question qui se pose en tout cas parmi les historiens, c'est de savoir que fait-on d'un genre aussi élogieux, hagiographique, et c'est souvent un genre qui est rejeté par les courants historico-critiques très hypercritiques justement, car en général la vie de saint nous apprend beaucoup plus sur le contexte de rédaction que sur la vie du personnage en question, parce qu'il y a tout un travail de réécriture, de reconstruction a posteriori. Donc au sein des courants historiographiques, c'est-à-dire la manière dont cette vie a été abordée par les historiens, on a eu différentes tendances. Première tendance, qui est assez positiviste, orientaliste, plutôt 19e siècle, début 20e, où on considère la biographie de Muhammad différente que les biographies qu'on pouvait avoir pour d'autres prophètes. Là, je vous cite par exemple Ernest Renan, qui écrit en 1851, il dit la chose suivante. La critique, en général, doit renoncer à rien savoir de certain sur le caractère et la biographie des fondateurs de religion. Il n'en est point de même pour Mahomet. Sa vie est demeurée comme une autre, sans miracle, sans exagération. Donc il écrit ça dans un article qu'il a intitulé « Mahomet et les origines de l'islamisme revue des deux mondes », dans la Revue des deux mondes, en 1851. Donc pour Ernest Renan, la biographie de Mohammed n'est pas une vie de saint. Elle n'est pas, selon lui, apologétique. Elle aurait servi au contraire à montrer toute l'humanité du prophète et la normalité du prophète. Donc là, on est dans un cadre vraiment historiographique particulier, c'est la période orientaliste où les sources de la tradition musulmane étaient globalement acceptées par les courants historiques. Ensuite ont émergé d'autres positions historiographiques, une école, je dirais, positiviste, c'est-à-dire qu'on a eu la volonté de séparer les éléments légendaires de la vie du prophète des éléments réels, vraiment historiquement attestés, pour constituer donc des biographies assez positivistes du prophète, où tous les éléments, on va dire, spirituels, confessants, ont un peu disparu. Là, c'est toutes les biographies qu'on connaît, de William Montgomery Watt, Maurice Godefroy de Montbine, Maxime Rodinson, Hichem Jaït, qui ont essayé de faire vraiment des biographies historiques du prophète. Mais vous avez aussi tout un courant sceptique, très critique, qui estime que la biographie historique est impossible. Et notamment un chercheur israélien, Harald Motzki, qui est vraiment partisan d'une approche très très sceptique, et qui écrit la chose suivante. D'un côté, il n'est pas possible d'écrire une biographie historique du prophète sans être accusé de faire un usage non critique des sources, tandis que d'un autre côté, lorsqu'on fait un usage critique des sources, il est simplement impossible d'écrire une telle biographie. Donc on a différentes postures historiographiques par rapport à ça. Soit on accepte les sources de la tradition musulmane comme étant fiables du point de vue historique, donc c'est la posture plutôt orientaliste. On peut les accepter aussi comme étant révélateurs d'un contexte postérieur à la révélation. Soit il y a l'attitude, donc on refuse catégoriquement l'utilisation des sources de la tradition musulmane parce qu'on estime d'un point de vue extérieur qu'elles ne sont pas suffisamment fiables. Donc tout ça, c'est pour vous resituer dans le cadre historique comment cette biographie a été considérée. Maintenant, dans l'association Larim, on a un point de vue, on va dire, spirituel, et donc on essaye d'aborder les choses aussi du point de vue de la foi. Donc cette question de la fiabilité historique de la biographie du prophète, qu'est-ce qu'on en fait en tant que musulman ? Peut-on retracer réellement l'histoire véridique d'un personnage aussi mythifié que peut l'être un prophète ? Et la question, c'est, et si l'on ne peut jamais être sûr de la vérité historique, quel est l'impact sur notre vie spirituelle ? Est-ce que ça a un impact sur notre vie spirituelle ? Est-ce que ça devrait avoir un impact ou pas ? Donc c'est-à-dire comment, ça pose la question de comment le croyant peut-il se comporter face à la vérité historique ? Ça, c'est la grande question que j'aimerais poser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes attaché dans votre vie spirituelle à cet aspect de la véracité des faits, c'est-à-dire que vous ne prenez en compte que les faits qui sont attestés, on va dire, historiquement, et vous les prenez en compte dans votre vie spirituelle, ou au contraire, est-ce que ça n'a pas d'importance ? Est-ce que la question aussi que je me pose très souvent, c'est est-ce que la version originale de l'islam, donc la version prophétique, est-elle forcément la meilleure, dans le sens où elle est originale, donc elle correspond aux faits historiques, ou au contraire, est-ce qu'on peut pas passer, est-ce qu'il faut tout rejeter, du coup, ce qui s'est construit après, rejeter l'intégralité de ce qui s'est construit après la vie du prophète. Donc, le but aujourd'hui, c'est pas forcément de s'intéresser au contenu de la vie du prophète, on pourra y revenir bien entendu, hein, si vous avez des questions précises, mais selon moi, de s'interroger sur la manière dont sa biographie peut influencer notre foi, et si, encore une fois, cette recherche de véracité historique entre dans votre démarche, ou si vous êtes plutôt intéressé, enfin plutôt attiré par une vérité ontologique existentielle, qui n'est pas forcément vérifiable dans les faits historiques, mais où on est dans un registre de vérité qui est différent de la vérité historique. Donc voilà, pour un peu ouvrir le cadre des questions qu'on pourra se poser tout à l'heure. Voilà.
Bah, je vais juste continuer et aller dans ton sens parce que ce que je pensais faire en fait, c'est prendre deux cas concrets, deux cas pratiques qui sont basés sur la Sira et qui vont avoir un impact, tu vois, qui vont avoir un impact sur notre compréhension, ou disons sur la compréhension classique de la religion. On a deux cas concrets. Un cas politique et le rapport aux femmes. Le cas politique. Vous avez, selon la lecture qu'on va avoir de la Sira, donc de l'exemple du prophète, on va avoir une interprétation et une lecture, du coup, différente de ce que dit l'islam sur ce point-là. Exemple. J'ai dit femme ou politique?
Politique.
Politique. Politique. C'est très simple. La date de 622, elle est importante, parce que c'est le point de départ du calendrier islamique, c'est l'Hégire, donc c'est la Hégira, c'est la fuite, l'immigration de Mahomet qui part de la Mecque pour arriver à Médine. Bon. La question qui se pose, c'est, une fois à Médine, quel a été le statut du prophète? Vous avez, aujourd'hui, vous avez trois lectures qui se dégagent, trois interprétations qui se dégagent de cet épisode. Vous avez l'interprétation la plus courante, celle qu'on connaît tous plus ou moins, qui consiste à dire que une fois Mahomet arrivé à Médine, il est devenu le chef de Médine, les gens se sont convertis à l'islam, et puis c'est devenu un chef temporel, c'est devenu le chef, c'est lui qui décidait, il avait des compagnons qui l'aidaient, c'était une sorte d'aréopage, conseiller, et puis le peuple qui pratiquait, et donc il a rétabli la justice, un ordre, etc. C'est la lecture dominante, c'est la lecture traditionnelle, c'est celle que l'on trouve le plus souvent, et qui a été aussi soutenue par les pouvoirs en place. Si elle a été soutenue par les pouvoirs en place, c'est bien parce qu'elle légitimait le modèle califal. Parce que les califes se sont réclamés eux-mêmes dans la filiation et dans la, j'allais dire, la filiation sous le patronage du prophète, et ils se sont dit qu'ils faisaient, finalement, ils ne faisaient que continuer le modèle mis en place par le prophète. Donc vous imaginez bien que, comme cette lecture confortait les pouvoirs politiques, c'est une lecture qui a été favorisée. Maintenant, vous avez, à partir du 19e siècle notamment, et Mohammed Abdou et la Nahda, donc la Renaissance islamique, vous avez, il y a la Renaissance arabe aussi, hein, Nahda, par attention, Nahda est un mouvement de renouveau, un renouvellement de la pensée, et il y a la Nahda qui touche tout ce qui est la langue arabe et les projets politiques pan-arabes où les chrétiens arabes étaient très impliqués, et puis il y a la Nahda islamique, et là on parle de Renaissance religieuse, de la pensée musulmane. Donc ici je parle de la Renaissance islamique, où on a ce qu'on va appeler les réformateurs, pour aller vite, qui eux vont dire, ok, on a eu un modèle qui s'est imposé, qui était le modèle, qu'on va dire, impérial, pour faire simple, avec Mahomet qui est le chef, qui s'impose, etc. Et ils vont dire, mais quand on lit les textes, si on lit justement les Sirah, parce qu'il y a la Sirah, il y a la Sirah la plus connue, la plus ancienne, c'est l'Hichem, effectivement, après il y en a d'autres qui vont être produites, et puis il y a dans les Kutub de Sunan, des pratiques du prophète, on a plein de choses qui apparaissent, qui ne sont pas forcément reprises dans la Sira d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait aussi l'aspect un peu problématique, parce que, alors qu'on a, d'un point de vue archéologique et historique, vraiment historique au sens le plus académique du terme, on a très peu de choses, finalement, vraiment sûres à 100%. Mais, dans les sources, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Et dans les sources, donc au 19e siècle, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment on parle de Mahomet, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et puis on va s'apercevoir que, en fait, une figure nouvelle émerge, puisqu'on voit que Mahomet, c'était le chef d'une communauté spirituelle, ou d'une communauté, pour faire simple, dans Médine, mais qui n'était pas le chef de Médine. On a les cas, on a beaucoup de cas, le cas qui me vient à l'esprit, c'est une fameuse attaque d'une grande tribu arabe qui s'appelle les Banu Ratafan. Ratafan qui vont essayer d'attaquer la Médine et qui vont demander une rançon pour éviter d'attaquer la ville. C'est du racket, quoi. Tout simplement. Mahomet regarde, il dit moi j'ai peur parce que les Banu Ratafan ils sont quand même très 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 nombreux et il se dit si on fait la guerre, on va y passer. Et donc, lui il est chef d'un groupe dans Médine qui est le groupe des musulmans. Si à l'époque peut-être on ne disait pas encore musulmans, mais enfin, il est chef d'un groupe en particulier. Et puis, on s'aperçoit que lors de cet épisode, il est consulté au même titre que les autres chefs des différents clans, des différents groupes qui sont présents. Et donc on voit que son avis à lui, c'est de payer la rançon. Et là, la question qu'on lui pose, on lui dit, est-ce que c'est toi, Mohammed, qui pense ça, ou est-ce que c'est du wahy? Est-ce que c'est la révélation? Est-ce que c'est Dieu qui t'a inspiré cette idée? Il va dire, ah non, c'est ma réflexion propre. Moi, en tant qu'être humain, c'est ma réflexion propre. Et ils lui disent, non, on va faire la guerre. Et donc, ils refusent de l'écouter, ils font la guerre. Et en plus, ils gagnent. Contre l'avis de Mahomet. Et on a plusieurs épisodes. Il y a un autre épisode qui est assez connu, où il est en train de se balader à Médine, et puis, il voit des gens qui font la pollinisation, vous savez, des palmiers. Et puis, il ne connaît pas trop, il n'est pas trop sûr du procédé, alors il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? On lui explique, et il fait une moue. Il ne dit pas un mot, il fait une moue en disant, bizarre comme truc, c'est comme ça. Que les autres vont interpréter comme, ça ne sert à rien, c'est nul. Et donc, ils vont rappeler les gens pour leur dire, descendez, le prophète a dit, ça ne sert à rien. Lui, il a fait une moue, il ne connaissait pas. Et donc, quelques mois plus tard, forcément, au niveau de la moisson, il n'y a rien. Et donc, ils vont le voir, ils disent, ah, mais c'est pas possible, pourquoi tu nous as fait ce coup-là, etc. Et puis, ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on lui explique, il leur dit, non, mais moi, je ne connaissais pas, j'étais étonné, c'est tout. Et il leur a dit, si je vous parle de Dieu, de tout ce qui touche à la spiritualité, à Dieu, à la religion, écoutez-moi, mais pour tout le reste, je suis comme vous. Je n'ai pas de connaissances particulières. Et il leur dit même, fameuse connue en arabe, c'est Entum alam bi umur duniyakum. Vous êtes plus connaissant des choses de votre monde, de vos affaires en fait, pas de votre monde, mais duniyakum dans le sens de vos affaires. Et ici en fait, qu'est-ce qui émerge du 19e siècle, deuxième lecture, c'est celle qui dit en fait, il faisait partie de la notabilité, il avait un rôle, surtout que c'était, il faut se rappeler que dans le contexte, il est arrivé à Médine pour servir de juge de paix en quelque sorte entre les deux grandes tribus qui passaient leur temps à faire la guerre. Donc c'était quelqu'un d'important, il était reconnu, mais ce n'était pas le chef. Et d'ailleurs, tous les Médinois ne sont pas convertis à l'islam. Beaucoup de Médinois n'étaient pas musulmans. Et même lors de la première bataille, quand les premiers musulmans partent faire la guerre, il y avait très très peu de Médinois convertis. Je ne parle pas des Médinois tout court, mais parmi les Médinois qui se sont convertis à l'islam, très peu sont partis faire la guerre. Ce n'est pas l'attitude d'un chef militaire qui va imposer ou qui va... On a vraiment, dans les textes, apparaît un autre visage, en fait. Un visage d'un notable, de quelqu'un qui a un rôle, qui a un poids, mais qui n'est pas, excusez-moi l'expression, le big boss.
C'est dans quel texte, ça?
Pardon?
C'est où, ça?
Ça, c'est dans tous les textes. Tous ces épisodes-là, de consultation, de shura, etc., on les retrouve un peu partout, hein, c'est pas dans un seul texte.
Oui, c'est un peu l'image de l'arbitre, en fait. C'est-à-dire que...
C'est exactement la raison pour laquelle il est parti à Médine.
Voilà, on ressort souvent, il y a eu un glissement entre l'idée d'un chef politique qui aurait tout dirigé de manière un peu autoritaire la guerre, ouais, à l'idée plutôt que c'était davantage un arbitre qui essayait de régler les conflits internes.
Ouais. C'est devenu un notable de Médine, qui faisait partie de l'élite de la ville, mais qui... C'est quand même différent de dire qu'on est notable et on fait partie de l'élite que de dire qu'on est le chef. Donc ça, c'est différent. Et vous avez une troisième lecture. Cette troisième lecture, elle est rattachée à un livre. Et c'est un livre qui a fait école aujourd'hui chez les penseurs contemporains. Un livre en plus qui est traduit en français. Alors, c'est génial. qui s'appelle « L'islam et les fondements du pouvoir », écrit par Ali Abdelrazak, Ali Abdelrazik. Vous le trouvez en français « L'islam au sol al-hukm ». Ça a été traduit aux éditions La Découverte. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Ali Abdelrazak, c'est un théologien d'Al-Azhar, d'Égypte, d'Al-Azhar, qui a écrit en 25. La date est importante. 25, pourquoi ? C'est l'abolition du califat par les Turcs. Et c'est l'abolition de l'Empire ottoman, en fait, tout simplement. Et la naissance de... Enfin, petit à petit... Non, c'est la naissance, vraiment, de la République turque, hein, à cette époque-là. Et donc, l'abolition du califat. Alors que c'était une fiction depuis très longtemps, le califat, hein, pour nous bien, mais d'un point de vue symbolique, là, il y a une véritable rupture, on abolit, ça n'existe plus. La même année, Ali Abdelrazak écrit un livre, L'Islam et le fondement du pouvoir, dans lequel, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Jusque-là, on a présenté le califat comme quelque chose de religieux, une construction religieuse, quelque chose qui était nécessaire à la communauté musulmane. C'était obligatoire d'avoir un calife. Vous savez que l'autre mot pour dire calife, c'est imam. Les chiites emploient le mot imam. Il y a des sunnites aussi qui peuvent employer le mot imam pour désigner le calife. C'est, on voit ici une sorte de double rôle, rôle temporel, mais aussi un petit peu religieux. Et donc, dans ce livre, Ali Abdelrazak dit, en fait... quel qu'ait été le statut réel de Mahomet à Médine, qu'il ait été le big boss, entre guillemets, ou qu'il ait été un membre de la notabilité, le pouvoir qu'il exerçait sur les croyants, c'était un pouvoir qu'il détenait de Dieu parce que c'était le prophète. Il avait une autorité sur le cœur des gens parce que c'était le prophète, et par définition, le prophète, en tout cas en islam, dans d'autres religions c'est un peu différent, mais en islam, le prophète est choisi par Dieu, Dieu uniquement. Et on sait que Mahomet est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a plus de prophète. Donc, quel qu'ait été le rôle de Mahomet à Médine, que ce soit un mort de la notabilité ou qu'il était le grand chef, personne ne peut revendiquer prendre sa place ou sa succession. Parce que, par définition, il a été choisi par Dieu et que personne ne peut être choisi par Dieu. Enfin, il n'y a pas de candidat pour être choisi par Dieu, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas dans... c'est quoi l'émission Koh-Lanta ou quoi. Non, vous voyez bien l'idée. C'est-à-dire que là, il dit, comme on sait qu'après Mahomet, il n'y a plus de prophète, ben, le statut qu'il avait à Médine, quel qu'il ait été, ben, on ne peut pas le reproduire. Et donc, à partir de ce moment-là, il va dire que la construction du califat, elle a été tributaire d'un besoin des musulmans de l'époque. Et les musulmans de l'époque se sont dit, bon, ben, on va prendre ce système-là, pardon. Mais ils auraient très bien pu choisir un modèle, après tout, cité-État, républicain, une assemblée, vous voyez. Et donc il dit que ça n'a rien de religieux. Et donc, et ça il s'appuie, et d'ailleurs je dois dire, parce que c'est... L'association elle est quand même, il y a Moutazili dedans. il s'appuie aussi, alors c'est dommage qu'ils ne le disent pas de manière très explicite, mais il s'appuie sur une pensée qui a été émise par un imam Moutazili qui s'appelle El Hassan, Abu Bakr al-Hassan, qui lui faisait partie des Moutazilites qui étaient plutôt proches de ce qu'on va appeler les Ibadites, donc la troisième branche de l'islam, les Kharijites si vous voulez. Et al-Hassan il disait « Inna al-nas law kafu 'an al-madhalimi lastaghnaw 'an al-imam ». C'est-à-dire que si les gens cessaient d'être injustes, ils se passeraient d'imam. Mais imam, il faut l'entendre ici dans la double acception. Imam religieux et imam calife. Vous voyez bien ce que ça veut dire. On est pratiquement dans ce qu'on pourrait appeler de l'anarcho, d'islam anarchiste pratiquement. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, en réalité, on a recours à l'institution politique et étatique parce qu'il y a besoin de défendre la justice. Mais s'il n'y avait pas, si les gens étaient justes entre eux, ben, on pourrait très bien se passer d'une telle structure. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est optionnel. C'est pas obligatoire. C'est obligatoire parce que les circonstances font que, mais ce n'est pas un devoir religieux en tant que tel, le modèle califal. Et donc cette lecture-là, Ali Abdelrazak s'appuie, donc on le voit quand on lit son texte, il s'appuie beaucoup sur cette référence-là. Et puis vous avez depuis, alors lui il a écrit que ce livre, hein, il n'a écrit que l'islam et le fondement du pouvoir, il a eu des problèmes monstrueux, on lui a retiré ses titres, il a eu des problèmes, etc. etc. Mais dans la pensée actuelle, vous avez chez les nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux penseurs musulmans ou de l'islam, vous avez cette pensée Ali Abdelrazak a fait école. A fait école aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose. Et on voit que toute cette question de la politique, donc qu'est-ce qu'un régime politique halal, entre guillemets, ben, elle est tributaire de ce que vous allez comprendre du rôle de Mahomet à Médine. Et donc vous allez avoir recours à la Syrah, mais en ayant recours à la Syrah, ben, après, qu'est-ce que vous allez lui faire dire? Qu'est-ce que vous allez vouloir souligner dans la Syrah? Parce que dans la Syrah, on trouve plein de choses. Et dernière chose, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, peut-être un peu.
Vas-y, continue.
Encore un petit peu. L'autre exemple, c'est un exemple qui est important, c'est le rapport aux femmes. L'islam et les femmes. Non, c'est important parce que vous avez un courant qu'on appelle le féminisme islamique, que beaucoup considèrent comme oxymorique comme expression. C'est-à-dire que pas une contradiction. Féminisme islamique, c'est « Ah, c'est pas possible, ça va pas ensemble. » Moi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la Syrah, justement, les personnes qui défendent ce féminisme islamique s'appuient beaucoup sur la Syrah. Parce que vous avez l'exemple de Mahomet qui écoute ses femmes, qui prend conseil de ses femmes, et d'ailleurs pas que de ses femmes, hein, des femmes qui sont aussi extérieures, qui les respectent. Alors, ne bondissez pas, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mais vraiment, il faut être très terre à terre. Mais on a aussi quelqu'un qui fait le ménage. Non, mais c'est... Rendez-vous compte qu'il y a des endroits où on a un homme qui fait le ménage, il est vu comme pratiquement pas un homme, quoi. Je veux dire, il y a une vision comme ça, on voit un homme laver la vaisselle, on se dit, mais c'est
là,
il a perdu toute dignité, quoi. Alors que, au même moment, vous avez dans les textes de la Syrah, le prophète qui recoue ses affaires, qui fait le ménage, qui nettoie, qui écoute ses femmes, qui les respecte, qui rigole avec eux. Pardon ?
Qui s'occupe de ses enfants.
Oui, et puis qui joue à Dada. Il y a un épisode marrant, entre guillemets, parce que quand on y pense, après, on se dit quand même... Un épisode où je crois que c'est Ramal qui rentre chez le prophète et qui voit le prophète à quatre pattes avec Hassan et Hussein, ses petits enfants sur le dos. Là, il dit, mais c'est pas possible, t'es prophète. Parce que c'était, pour eux, c'était inimaginable qu'un père, par exemple, quand son enfant, il lui fasse un bisou. C'était quelque chose, c'était pas possible. Et l'homme, on doit toujours faire la gueule, on doit toujours... Bon. Et là, il voit le prophète à quatre pattes avec... Et ça, vous trouvez dans les livres de la Syrah, hein. Vous trouvez dans les livres, vous voyez bien que ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer à quel point les livres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en fait, les livres ne disent jamais rien d'autre que ce dont ils sont porteurs. Mais par contre, ce sont les gens qui les font parler qui sont intéressants. Parce que vous trouvez tout ce que je vous raconte là, vous les trouvez dans la Syrah, ça sort pas de ma tête. Et pourtant. Alors des fois, on aime bien, mais il y a des imams qui aiment bien... Oui, mais le prophète, il avait ses affaires et tout. Il faut être autonome. Hein. Ouais, d'accord. Mais enfin, le reste du temps, le discours qu'on entend, c'est que la femme, elle doit. La femme. Qui me moque. Je ne sais pas ce que c'est la femme. La femme doit être dans la maison, c'est elle qui doit se nettoyer, c'est elle qui doit faire ceci. Et pourtant, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien ce que je veux dire par là. C'est que vous avez des textes qui existent. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces textes? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez? Si vous décidez de vous appuyer sur ces textes en disant bah, « Regardez le prophète, il écoutait ses femmes, il écoutait les femmes de manière générale, il les respectait, il rigolait avec elles. » Un autre épisode avec Omar aussi, où Omar rentre, alors que le prophète était en train de jouer, vraiment jouer et de rigoler avec les femmes, tout le monde se tait, parce que bon, Omar, il a une réputation quand même de... sacrée réputation de misogyne quand même. Donc vous avez toutes les femmes qui se taisent, et puis là, un petit reproche gentil. Le prophète qui lance à Omar en lui disant à Omar, je ne sais plus l'expression juste, mais il dit un truc du genre qu'est-ce que c'est que cette manie, à chaque fois que tu rentres quelque part, tout le monde se tait. L'idée de dire, mais t'es trop dur, sois un peu plus. Voilà. Donc, tout ça, que ce soit la question politique ou le rapport aux femmes, on s'aperçoit que il y a les textes et puis il y a les usages qu'on en fait. D'accord ? Après, juste pour en revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la production, parce que ces textes-là sont quand même des textes qui sont assez tardifs par rapport à la vie du prophète, ils sont assez tardifs. Et c'est vrai aussi qu'on a beaucoup d'épisodes où on se dit, là on reconnaît la main de certains qui ont raconté ces histoires-là et on se demande s'ils sont véridiques. Un épisode très connu qui est, voilà, mon tout dernier exemple, excusez-moi, je monopolise la parole. Que ça me tient un peu à cœur, mais 615, vous avez la première hijra, la première émigration de compagnons qui sont envoyés en Abyssinie, chez le négus chrétien, pour se protéger. Quand on lit un peu la production des historiens, des islamologues, on s'aperçoit que, en fait, c'était... Alors, Jacqueline Chabie, elle est définitive, c'est impossible. Cet épisode n'a pas pu avoir lieu, parce que pour partir de la Mecque et aller en Abyssinie, c'était une expédition de dingue, parce que nous, on s'imagine qu'il suffit d'aller sur la côte et puis prendre un bateau, puis on y est. En fait, pas du tout, parce que c'est une région montagneuse, volcanique, on passe pas, il n'y a pas de passage. Il faut faire tout un détour ou aller tout en bas au Yémen et traverser la mer qui est remplie de requins, comme ça. Et elle vous dit, quand on lit les textes, on a l'impression qu'ils passaient leur temps à faire des allers-retours. Limite, ils n'avaient pas Messenger. Elle se dit, c'est pas possible. Elle se dit, techniquement, c'est pas possible. Alors la question, c'est, d'accord, mais alors dans ce cas-là, comment ça se fait que ça existe dans les livres de la Sirah, justement? Et là, vous dites ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la... Ça nous éclaircit sur le contexte de la production de ces textes, justement. C'est le rôle joué par les scribes chrétiens, et nestoriens notamment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'établissement de l'Empire, d'abord Omeyyade, mais aussi un peu sur les Abbassides, mais surtout chez les Omeyyades, les fonctionnaires étaient des fonctionnaires chrétiens. C'était eux qui tenaient toute l'administration de l'Empire, alors je n'ose même pas dire musulman, parce que ce ne serait pas juste, l'Empire arabe, le premier empire arabe. Et donc ici, d'aucuns vont parler du rôle qu'auraient pu jouer certains scribes pour donner une importance au négus, donc une figure chrétienne, et donc un peu favoriser un lien. Et d'ailleurs, de par le fait, aujourd'hui, très souvent, dans les rencontres, je participais à pas mal de rencontres interreligieuses, et vous avez beaucoup cet épisode-là qui est utilisé pour dire « Ah ben non, on n'est pas forcément en guerre avec autrui, regardez le Négus, regardez 615, la première Hijra, etc. » Donc ça a été effectif, et après tout, si ça marche. En plus, ça marche pour quelque chose de plutôt positif, pour propager la paix et l'entente, pourquoi pas. Mais, donc tout ça pour dire, et je m'arrête là, promis, c'est que les textes disent plein de choses, et après c'est quel regard nous on porte sur ces textes et qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà, je m'arrête là et merci.